Je sais pas s'il va avoir un bye-bye à la fin de l'année.
Ah, c'est sûr que oui.
Mais je peux vous dire que... Ouais, mais tu sais, on avait l'impression pendant un bout qu'il y a le COVID. Je me suis fait la blague en ondes. Je voudrais pas être dingodasse de Simon-Olivier Fecteau. Tu sais, il y a eu tellement rien que le COVID. Tu peux pas faire un bye-bye au complet sur le COVID. Quand on va regarder dans le rétroviseur au 31 décembre prochain, oui, on va voir en gros le COVID, mais autour, il va y avoir deux, trois autres nouvelles majeures et marquantes de l'année. Mm. Et parmi celles-ci, l'exonération de Nathalie Normandeau et de ses co-accusés hier, à la suite d'un procès qui aura duré...
À la suite de
procédures puis de requêtes qui se seront accumulées pendant 4 ans et demi, à la suite desquelles le juge Perrault a prononcé un arrêt des procédures pour délai déraisonnable. Alexis, t'étais au palais de justice hier?
Oui, j'étais là avec Jonathan parce que je t'avoue qu'on s'est pas ennuyé tant que ça. Ça grouillait pas mal au palais de justice. C'était une décision qui était attendue parce que quand on y pense, faut quand même remettre ça en perspective. Nathalie Normandeau, c'était la vice-première ministre du Québec. C'était pas n'importe qui. Puis à l'époque où la vice-première ministre avait encore plus de place qu'aujourd'hui, là, même si Geneviève Guilbeault en a quand même pas mal. Et bon, à la suite de toute la commission Charbonneau, on avait des questions beaucoup sur l'espèce de système de financement clandestin qui avait cours au Parti libéral. Et on cherchait les coupables. Et 2 ans plus tard, après un an et demi, à peu près après la commission Charbonneau, est arrivée l'arrestation de Nathalie Normandeau. On remonte en 2016,
oui.
À ce moment-là, pour l'arrestation de Nathalie Normandeau, 17 mars 2016. On était hier le 25 septembre 2020. C'est 4 ans et demi plus tard où Nathalie Normandeau n'a même pas eu le début de commencement de procédure judiciaire. Le juge a regardé ça puis a dit, écoutez, là, 52 mois, parce que lui, c'est le calcul auquel il en est arrivé, de délai qui était attribuable à la couronne. Il dit, c'est absolument inacceptable, c'est déraisonnable. Et il a pris la peine d'expliquer dans son jugement que la perception que les gens vont avoir sur Nathalie Normandeau et ses co-accusés, même s'il a prononcé un arrêt des procédures, ça va rester. Il dit, les conséquences du jugement du public ben souvent plus lourd que le jugement de la Cour lui-même. Et là, il continue plus tard en disant que sont donc tout aussi innocents que quiconque vous pourriez croiser dans la rue. Mais dans son jugement aussi, il manque pas le juge de ramasser l'UPAC à travers ça.
Ouais, avant l'UPAC, juste de dire, tu sais, c'est vrai que les conséquences qui sont irréversibles sur la réputation de Mme Normandeau, ben, sont là. Parce que, on l'a vu dans plusieurs dossiers, mais quand t'es une personnalité publique, l'opinion publique est quand même un élément qui permet de déterminer ça va être quoi les étapes de ta carrière, là.
Oui.
Si les gens t'aiment, si les gens t'aiment pas, si les gens te font confiance, ils te font pas confiance. Ça, dans ces cas-là, sur le plan légal, ben tu devrais jouer d'une présomption d'innocence comme tout le monde. Mais dans la vérité, sur le plan, on va dire professionnel, peut-être plus, là, ça n'existe pas.
Non,
la
non.
Présomption d'innocence pour quelqu'un qui est public comme ça. Prenez par exemple, puis on va rester dans les politiciens, mais prenez par exemple Jerry Sklavounos, qui était accusé par Alice Paquette de viol puis d'agression sexuelle. Il a été blanchi, le DPCP a dit cette fois-là, je m'en souviendrai toujours, aucun geste criminel n'a été commis.
Ils font jamais ça d'habitude.
Ils font jamais ça. Ils ont pas juste dit on portera pas d'accusation. Ils ont dit aucun geste. Ça veut dire qu'ils ont analysé la preuve puis ils ont dit il y a pas eu de geste criminel.
Pourtant Jerry Sklavounos.
Il est où aujourd'hui? Fait encore de la politique? Non. Mm. Guy Ouellet a été arrêté par l'UPAC sans jamais être accusé. Ouais. Il est porte-nous au Parti libéral.
Non, ils veulent pas.
Ils veulent rien savoir. Il est devenu radioactif. Même s'il est arrêté, on sait pas pourquoi et qu'il a jamais été accusé de rien.
Exact.
Il est encore là comme indépendant, mais tu sais. Ça fait que. Quand je dis ça, il est encore là, je pense que oui, il est encore là.
Guy Ouellet?
Oui.
Il est député, oui.
Comme indépendant?
Oui, c'est ça.
Il a été réélu, c'est ça?
Oui. Mais il a essayé de réintégrer le caucus, mais il voulait pas.
Ça n'a jamais marché.
Non, c'est ça.
L'UPAC.
Oui, mais en fait, ce que je te disais, c'est que le juge a ramassé l'UPAC dans cette décision parce qu'en disant n'eût été de l'enquête bidon de projet A. N'eût été des fuites et de l'enquête bidon du projet A, c'est les mots du juge, le procès serait fort probablement terminé depuis l'été 2018. Parce que, puis c'est pour ça qu'il faut remonter un peu dans toute cette histoire-là, puis je vais essayer de vous le résumer du mieux que je peux, là. Mais on entend beaucoup parler de Nathalie Normandeau, bon, les séquo-accusés, d'où ça part? Alors, je vous disais, là, arrestation en 2016, est arrêté à ce moment-là parce que on reproche à Nathalie Normandeau et ses cinq co-accusés. Là, là-dedans, on parle de Marc-Yvan Côté, Bruno Lortie, son ancien chef de cabinet, Mario Martel, France Michaud puis François Roussy. Eux, on leur reproche d'avoir participé à un système de financement électoral clandestin en échange de contrats publics. Donc, vous financez le parti, puis on vous donne des contrats.
C'est ça.
L'été passé, il y a des accusations qui ont été abandonnées. On parle des accusations les plus graves, fraude, corruption, complot, ces accusations-là sont tombées, mais il reste encore celle d'abus de confiance, de fraude envers le gouvernement, d'actes de corruption dans les affaires municipales. La raison pour laquelle c'est aussi long, la fameuse enquête bidon dont parle le juge là de Projet A, ça c'est l'enquête de l'UPAC sur les fuites journalistiques, parce qu'il y a eu de nombreuses textes, articles, reportages qui ont été faits, entre autres l'émission Enquête, qui ont parlé des fameux stratagèmes. Et là, l'UPAC voulait savoir qui donne ces sources-là, qui envoie cette information-là aux médias. Donc, c'est là que naît l'enquête Projet A, où, entre autres, on va procéder à l'arrestation de Guy Ouellet.
C'est ça.
Mais ça n'a jamais abouti nulle part. Par la suite, c'est le Bureau des enquêtes indépendantes, qui est le corps policier qui enquête sur les policiers pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts.
Par exemple, qu'un policier utilise son arme de service. Dès qu'il y a un coup de feu tiré, il y a une enquête du Bureau des enquêtes.
Exact. Donc là, on dit, bon, on va nommer un tiers pour enquêter sur ce cas-là, donc poursuivre l'enquête sur les fuites médiatiques, mais aussi toutes les stratégies que l'UPAC a utilisées. Et ça, c'est devenu l'enquête serment. Et là, tant qu'il n'y avait pas fini cette enquête-là, le BEI, on ne pouvait pas procéder au procès de Nathalie Normandeau. Fait que là, c'est en... Puis là, dites-vous que dans cette histoire-là, Marc-Yvan Côté, lui, est allé jusqu'en Cour suprême parce qu'il voulait savoir c'était qui les sources de Marie-Maude Denis, puis aussi parallèlement à tout ça, de Louis Lacroix dans les différents reportages. Ce qui fait que là, ben lui et Marc-Yvan Côté, ils voulaient tirer ça le plus possible pour ne pas avoir de procès. Mais Nathalie Normandeau, elle voulait que ça procède. Mais comme ils sont tous ensemble, ça pouvait pas avancer, cette cause-là. Et ce qui fait en sorte que, même si le juge, hier, avait dit « Non, on poursuit les procédures », on en avait, là, jusque pas avant 2021-2022 pour un procès. Parce que, là, la décision qui a été remise hier est caviardée de tout bord, de tout côté, parce que les éléments de preuve...
Il y a encore une enquête pour essayer de comprendre les fuites sont parties d'où.
Ben, fait que là, ces éléments-là, tu peux pas les savoir. Fait que tant que tu peux pas rendre public les éléments qui amènent à porter des accusations contre Nathalie Normandeau, tu peux pas aller en procès. Parce qu'il faut que t'aies une preuve. Mais ta preuve est caviardée, là. Parce qu'il y a enquête sur cette preuve-là. Fait que tu vois, c'est toute la complexité de cette affaire-là. Et Nathalie Normandeau, hier, là, quand la décision a été rendue, c'est un soupir de soulagement. J'étais assis à côté de Bruno Lortie, qui est son ancien chef de cabinet. Puis tu sais, tu voyais des larmes là, dans les yeux de Bruno Lortie, puis il essuyait des larmes quand est arrivé le temps de la décision. Le conjoint de Nathalie Normandeau était pas trop loin, puis t'as entendu un poussé à côté, parce que pour eux autres, ça fait 4 ans et demi qu'ils sont là-dedans.
Ouais, ouais.
Et Nathalie Normandeau, est-ce qu'elle va poursuivre le gouvernement ou non? Ça, c'est la question qui demeure en suspens.
La vraie question, c'est ça y tente-tu? Parce que moi, je pense, je poserai la question à Maître René Verrette, avec qui on va parler vers 9h, mm-hmm. dans une heure, à peine plus qu'une heure tantôt. Moi, je pense qu'elle a une cause de manière assez évidente. Là. Mais la question, c'est ça y tente-tu de se rembarquer dans ces procédures-là interminables? En même temps, ses frais d'avocat doivent être quand même assez élevés, hein, Mme Normandeau, depuis
quelques années. Parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de revenus depuis qu'elle a quitté la radio il y a une couple d'années.
C'est ça.
Elle a travaillé un peu.
Oui, elle a travaillé un petit
elle
peu.
Elle a travaillé à une autre station après être partie d'ici en mars 2016.
C'est un peu plus qu'un an, je pense, qu'elle a arrêté de faire de la radio.
Un peu moins. Un peu moins qu'un an.
Moins qu'un an? Okay. Ben non, t'as pas un instant, on est quand, là? On est à l'automne 2020. Non, l'automne passé. Ça fait plus qu'un an. En tout cas, peu importe. Là,
ou à peu près, disons un an.
Elle n'a pas de revenus, puis elle calcule les frais d'avocat. Mais Maxime Roy, d'après moi, il y a des papiers en horaire.
Oui, oui.
Mais, puis l'autre question, c'est qu'est-ce qui reste comme carrière professionnelle pour Mme Normandeau? Puis d'ailleurs, là, je vais juste mettre une chose au clair. Là. Moi, j'ai jamais travaillé avec Nathalie Normandeau, puis je la connais pas.
Moi non plus.
Puis non, mais c'est pas pour rien que je dis ça. C'est parce que j'ai entendu plein de collègues dire hier, puisque c'est vraiment hier que c'est arrivé, là, la décision du juge Perrault, dire, écoutez, il y a peut-être un certain biais dans mon propos. Je l'ai connue, Nathalie, mais j'essaie de rester rationnel. Moi, je peux juste être rationnel là-dedans. Je la connais pas. J'ai pas. Tu sais, plein de monde m'a dit, ah, c'est une collègue super fine, elle était cool. J'ai des amis qui ont travaillé avec elle.
Je l'ai côtoyée.
À une autre station qui me disait, t'es vraiment smart. Bon. Mm-hmm. Mais parfait, je la connais pas, j'ai aucune idée. Ça fait que mes commentaires sont pas teintés de ça, là. À 52 ans, c'est elle-même qui l'a dit hier, elle dit à 52 ans, je veux passer à autre chose. Bon, mais il reste quoi comme perspective d'emploi pour Mme Normando? C'est une vraie question parce que moi, je suis satisfait, ça c'est vraiment juste un commentaire éditorial, mais je suis satisfait de ce jugement-là parce que si on croit en la société de droit, on peut pas accepter qu'un procès... On peut pas accepter qu'un corps de police comme ça enquête ses politiciens, qu'on les arrête, qu'on les fasse bretter dans le collimateur du système de justice qui est pourri pendant 4 ans et demi. On peut pas accepter ça.
Puis je sais pas quel analyste je lisais hier qui disait, ce qui est un peu ridicule, c'est que l'enquête là a commencé après l'arrestation de Nathalie Normando. Tu comprends?
Ah ouais, mais c'est ça. C'est parce que là, c'est rendu que tu peux arrêter du monde, même si t'as pas de preuves contre eux autres, ça marche pas.
Puis tu peux les arrêter aussi le jour du budget. Tu peux les arrêter aussi. 2 semaines avant le renouvellement de ton mandat comme directeur de l'UPAC. Il y a ça, là. Sincèrement, je sais que ça peut tomber un peu dans les théories de complot, mais moi, je pense pas. Tu sais, la décision d'arrêter Nathalie Normando le jour du dépôt du budget, là, pour moi, ça peut pas être un concours de circonstances. Ça ne peut pas. Je vous explique pourquoi. La police, là, ils ont quand même de la latitude sur le moment où ils arrêtent des gens. Ils vont choisir, par exemple, d'aller arrêter tel bandit chez eux parce qu'ils ont le mandat, ils ont les preuves, ils sont prêts. Mm-hmm. Ils vont aller l'arrêter chez eux très tôt le matin pour être sûr qu'il est là, puis pour donner un coup, puis bon, pour le réveiller. On voit ça des fois, tu sais. On voit ça à TV, mais ça peut se passer comme ça. Le seul moment où est-ce qu'ils vont vraiment se dépêcher puis se dire, là, on n'y est pas, let's go, on ne laisse pas partir, c'est s'il est dangereux. Danger public, là. Armé est dangereux, ou quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, très dangereux pour lui-même ou pour les autres, ou un tueur, un violeur, bon. Ou si on a peur qu'il se pousse. Si on a peur qu'il prenne la vie. C'est ça.
Puis Nathalie Normando, jamais je créerais qu'on était une journée près, là.
Ni l'une, ni l'autre de ces deux situations. Ben alors, est-ce qu'il aurait pu l'arrêter le lendemain ou la veille? La réponse, c'est oui.
Oui. Il aurait pu l'arrêter 3 semaines après aussi.
La veille, peut-être pas, dans le fond, parce qu'il faut que ton dossier soit prêt. Ça a de l'air, hein, en tout cas. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il aurait pu l'arrêter le lendemain? Absolument. J'en suis convaincu. Il va falloir se lever de bonne heure pour me convaincre d'autrement. Je suis convaincu. Alors, pourquoi ils l'ont arrêté ce jour-là? La question reste sans réponse. Mais on a le droit de s'affaire chacun nos pistes de réponse à nous autres. Mais bref, ce que je disais, c'est qu'est-ce qui reste comme perspective d'emploi à Mme Normando? Sincèrement, moi, je le sais pas, parce que le dénouement de cette affaire-là, c'est la pire chose qui pouvait arriver à part si elle avait été condamnée, on s'entend, là. Mm-hmm. Mais considérant qu'on n'était pas parti vers là pantoute, là, la pire chose qui pouvait arriver pour Mme Normando et pour les citoyens, c'est un arrêt des procédures pour délai déraisonnable.
Parce qu'on n'aura pas de réponse.
On ne saura jamais ce qui s'est passé.
C'est pour ça qu'elle n'en voulait pas.
On ne le saura jamais.
Elle ne voulait pas faire appel à ça.
Ben, je la comprends.
Mais non, elle voulait un procès pour prouver qu'elle était innocente.
Mais à un moment donné, ça va faire, là. Tu sais, quand ça fait 4 ans, puis tu n'as même pas de perspective d'avenir de un moment donné, on va y avoir un procès, tu n'as même pas de date de fixer. Ouais. C'est là qu'elle dit, ben là, on va y aller avec l'arrêt des procédures, considérant que les charges les plus majeures étaient tombées aussi, là.
Oui, puis je la comprends sincèrement après tout ce temps-là d'avoir demandé un arrêt des procédures. À un moment donné, il faut que ça arrête, là. Il faut que la vie puisse continuer,
c'est ça.
Là.
Elle a répété souvent hier qu'à plusieurs reprises, elle a essayé de faire avancer les procédures, de les faire bouger, puis non, ça ne voulait pas bouger. Je sais plus à quel niveau, là, DPCP ou le. En tout cas, bref, la justice ne voulait pas avancer.
Ben, justement, moi, je vous propose d'aller écouter ce que Nathalie Normando avait à dire à la sortie de la cour hier. On a parlé avec Nathalie Normando. Voici en gros ce qu'elle avait à raconter.
Cette décision me permet de reprendre le contrôle de ma vie, du moins je l'espère, ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est extrêmement difficile de vivre avec des accusations criminelles. Je vais vous le dire, là, bien honnêtement, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Ma vie a été mise en suspens. Ma famille et moi avons énormément souffert. On m'a volé 4 ans et demi de ma vie. Ces années perdues, je ne pourrai jamais les retrouver. Dès le jour de mon arrestation, mon avocat a affirmé que cette histoire avec la justice n'aurait jamais dû avoir de commencement. Ça aura pris 4 ans et demi pour lui donner raison. Jamais je n'aurais dû être accusée. Jamais. Malgré la décision de la Cour suprême, on s'est foutu royalement des délais en question. Et moi, j'ai déposé une multitude de gestes pour obtenir un procès, pour accélérer les procédures. Puis à chaque fois, je me suis fait dire non. À chaque fois, les portes se sont fermées. Puis à un moment donné, tu dis, ben oui, mais elle est où la justice? Elle est où la justice? Oui, ma réputation est entachée. Oui, mon nom a été sali sur la place publique. Jamais je n'aurais dû être arrêtée et accusée. C'est ça qui est le plus difficile. J'ai toujours clamé mon innocence. J'aurais voulu un procès pour le dire au juge. Questionnez-moi. J'ai jamais eu peur des questions des procureurs du DPCP. Et j'ai senti tout au long du processus que, bon, ben, le système étant ce qu'il est, on laissait filer, puis peu importe les délais, bon, ben, là, puis on est là où on est aujourd'hui. Ma priorité aujourd'hui, là, c'est d'apprécier le jugement qui vient d'être rendu. C'est à court terme retrouver le cours d'une vie normale, reprendre le contrôle sur ma vie personnelle et me trouver un job.
Moi, quand j'ai entendu ça, là, je me suis dit personnellement, là, as-tu idée hier soir à quel point ça devait être la première fois qu'elle dormait bien depuis un bout de temps?
Peut-être.
Sur un plan personnel? Là?
Moi, il y a une question qui demeure, par exemple. Peut-être je pourrais la poser à Maître Verret tantôt parce que c'est quelque chose de d'éminemment judiciaire. Là.
Ouais.
Mais là, le procès... C'est tous les co-accusés ont un procès ensemble en même temps. Madame Normando a demandé d'avoir son propre procès. On lui a refusé parce qu'elle voulait que ça embraye.
Ouais.
Ça embrayait pas en partie parce qu'il y a eu des fuites policières et que Marc-Yvan Côté est allé jusqu'en Cour suprême pour tenter de faire dire aux journalistes notamment
c'est qui vos sources.
C'est qui les sources. Ce qui n'a pas eu lieu. Est-ce qu'une partie de ce délai-là n'est pas attribuable à la défense? En ce sens où Marc-Yvan Côté a fait durer les... Je comprends qu'en
mais
fait, à
calculés.
La base, la faute, c'est les fuites, on s'entend ouais. là.
Mais ils sont calculés, ces délais-là.
Je le sais, mais je veux dire, c'est pas les mêmes... À mon sens, c'est pas les mêmes délais pour Mme Normando que pour M. Côté, même si le procès, il est conjoint.
Oui, je te suis. Je te suis, mais tu sais,
parce que
juge...
moi, j'ai quand même le sentiment dans cette affaire-là qu'on n'a pas beaucoup entendu Marc-Yvan Côté, mais qu'hier, s'il y en a bien un qui devait être content, c'est lui.
Ah, ben c'est sûr.
Tu sais, l'idée, là, de faire des procès comme ça de plein de monde, surtout dans... J'espère qu'on a retenu la leçon et au DPCP, et aussi à l'UPAC. Dans le fond, c'est pas l'UPAC qui accuse, l'UPAC enquête, mais moi, il y a des affaires, là. J'espère que... Y est-tu temps, vraiment, qu'on commence à ouvrir la discussion sur accepter que ça a pas marché, l'UPAC?
L'UPAC,
c'est une belle idée, là. On a décidé de mettre sur pied un corps de police spécialisé pour lutter sur la corruption parce que, bon, à l'issue de la commission Charbonneau, on a réalisé qu'il y avait des systèmes de collusion puis de compagnies qui payaient des partis politiques en échange d'octroi de contrats. Puis bon, on s'est dit, on va lutter contre ça, on va créer un corps de police spécifique pour ça. Bonne idée. J'étais de ceux qui pensaient que c'était une bonne idée. Mais aujourd'hui, avec du recul, on réalise que ça marche pas. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait? On ferme. On continue de pomper des millions dans quelque chose qui fonctionne pas. D'ailleurs, vers 9h15, on va parler avec le porte-parole de l'UPAC, Mathieu Galarneau. Puis c'est des questions que je vais poser, même si c'est des questions difficiles, là, sincèrement. Est-ce que c'est vraiment... Puis pas juste à la radio, « OK, hey, là, Charon, tu fais ton gérant d'estrade. » Un peu, OK, j'accepte. Oui. Mais dans les sphères législatives, là, le politique, dans les sphères exécutives, puis dans les sphères judiciaires, est-ce qu'il commence à vraiment être temps de discuter de l'option de... mettre la clé dans la porte à l'UPAC et d'accepter que c'est un échec. Ça n'a pas marché. C'est correct, là, c'est plate, mais ça n'a pas fonctionné. Ça se peut-tu, ça? Parce que moi, vraiment, je regarde, là, ce matin, d'ailleurs, il y a un texte intéressant dans le journal, mais tu sais, à l'UPAC, là, franchement, là, ça commence à faire beaucoup de bourdes, là, beaucoup d'accumulation d'échecs. Là.
Mais il y a plus d'échecs que de réussites, là.
Ben, je lisais un texte où M. Galarneau, on verra ce qu'elle nous dit tantôt, mais il disait que il disait que 58% des enquêtes de l'UPAC avaient mené à des procès, des condamnations. OK? Mais lesquels, là? Parce qu'à date, les gros poissons, on les sort jamais de l'eau. les gros poissons, on pêche à la dynamite, mais on réussit pas à les pogner, là. En tout cas.
Là, il reste 30 jours à savoir si le DPCP va aller en appel de la décision. Mais de ce que j'ai senti, moi, des avocats, des accusés, là, ils n'étaient pas très inquiets hier. Pas l'impression que le DPCP va se lancer d'aller en appel de cette décision-là.
Ça fait qu'on verra dans 30 jours, mais je serais bien surpris moi aussi. 8h05, on prend une courte pause, on revient.
jusqu'à 10 heures. Vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon, Vez et Alexis Sanson. Que Québec se lève.